Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
C'est maintenant l'heure de notre feuilleton dédié cette semaine aux Journées du Patrimoine. Les 38e du nom ont lieu ce week-end, les 18 et 19 septembre, autour du thème Patrimoine pour tous. Ce sera l'occasion, notamment en Mayenne, de découvrir l'histoire méconnue des mines de charbon à l'Huisserie et à Montigny-le-Brillant, grâce à tout un programme d'animation concocté par l'UDAL, l'Union d'animation luissérienne, grâce notamment aux recherches de Loïc Michel. L'extraction a commencé dans le début des années 1830, puis a réellement pris son essor dans les années 1850. On écoute justement Loïc Michel nous raconter la suite.
En une dizaine d'années, la ruée des mineurs et de leurs familles a fait de ce petit bourg qu'était l'Huisserie une agglomération qui rattrapait les bourgs aux alentours. Et on a vu des familles entières arriver, des anciens puits comme la Baconnière ou comme la Bazouge de Chéméré, qui étaient des anciens sites d'extraction minier. Quand on grossit de cette façon-là, il faut aussi prévoir les infrastructures qui vont avec. Quand l'instituteur, en 1858, se plaint auprès du maire qu'il a 80 ou 100 enfants dans une seule classe, effectivement, ça remue. Mais le conseil municipal, essentiellement constitué d'agriculteurs et de commerçants artisans du bourg, eux ne voient pas ça de cette façon-là. Ils trouvent que ce sont quand même, et c'est marqué dans les comptes rendus du conseil municipal, on a affaire à des étrangers et des nomades. Et on subit des choses qu'on n'a pas voulu, puisque c'est les sociétés minières qui les ont fait venir. Les lavandières, les femmes du bourg, se sont plaintes auprès de la municipalité en disant « ça ne peut pas durer comme ça, on est trop nombreux et notre linge va sortir plus sale qu'il n'est arrivé ». Donc, obligés de construire un deuxième lavoir de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Des mineurs, au moment de pointe, vers les années 1870-1880, ils étaient à peu près 200. Donc, il faut voir les familles qu'il y avait à côté. Quand on était mineur, on travaillait 6 jours sur 7. On faisait des journées de 10, même voire 12 heures au début. Le repas du midi ou la mi-journée, on le prenait en bas, ça s'appelait le briquet. On descendait par un train d'échelle et on pouvait descendre jusqu'à 200 mètres. On débitait le charbon par palier. Et donc dans une équipe, on avait des piqueurs, et c'était eux qui tapaient dans le charbon, dans le mur de charbon pour amener. Et puis les wagonnets qui étaient mis sur des rails étaient souvent tractés par les galibots. Les galibots, ce sont les enfants des mineurs. Sortis de l'école à 10 ans, 12 ans, on devenait galibots et on transportait 8, 10 heures de temps le charbon jusqu'au trou, ce qu'on appelait le trou, c'est-à-dire là où il y avait la plateforme qui remontait le charbon jusqu'à la surface. Il reste quelques entrées de puits, il reste le café de la mine qui est toujours là, mais il y a peu de choses qui sont restées. Ce qui fait que les nouveaux habitants disent des mines ici, mais où ils sont où les corons non. Et puis ici, les gens ne travaillaient pas pour la sidérurgie ou pour la métallurgie, ils travaillaient pour les fours à chaud. C'était pour alimenter énergétiquement les fours à chaud qui avaient ce charbon.
Journées du patrimoine qui ont lieu donc ce week-end en Mayenne, partout en France aussi. Et en général, c'est vrai que c'est le moment de visiter des lieux qui sont habituellement fermés au public. Et c'est le cas de l'espace culturel Saint-Clément à Cran. Alors, pas la salle de spectacle, j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais plutôt ses coulisses. Ce sera donc une première pour cette ouverture au grand public ce dimanche, pour vraiment voir l'envers du décor, avec des visites très décalées, comme l'explique Camille Nicole. Elle est chargée de programmation à la saison culturelle du pays de Cran.
On profite de la conjugaison des journées européennes du patrimoine et de notre ouverture de saison pour faire un événement sur cette journée du dimanche 19 septembre avec des visites décalées de l'espace Saint-Clément que beaucoup connaissent peut-être en tant que salle de spectacle, peut-être ne connaissent pas complètement son histoire ni son réaménagement puisque c'est un lieu particulier étant une ancienne église. Voilà, il y a plein de choses à découvrir et donc on aura le plaisir de proposer quelques visites courtes, 5 temps de visite en fait, de 20 minutes, un quart d'heure, décalés pour découvrir cet espace et tout ce qu'on ne voit pas habituellement, donc l'envers du décor. Voilà, une occasion unique de découvrir la salle. L'idée, c'est vraiment de découvrir cet espace dans tout son ensemble et dans toutes ses dimensions. Et avec un regard, on va le dire, pas forcément toujours très sérieux. Donc on va faire participer, voilà, ce sera une visite théâtralisée. Hein, on ne sait pas le pourcentage d'informations vraies qui seront dans la visite. Mais voilà, en tout cas, c'est un regard un petit peu décalé sur ce lieu, sur son histoire, sur ses fonctions actuelles. Et puis quand même, vraiment, oui, l'occasion de découvrir les coulisses, les loges, les endroits que seule l'équipe de la saison et les artistes connaissent habituellement. On organise sur ces journées du patrimoine notre ouverture de saison avec une soirée à 17h où on présentera l'ensemble des spectacles de la saison et qui sera suivi d'un concert du groupe Bonbon Vaudou. Donc voilà, on s'est dit autant en profiter pour ouvrir grand les portes du théâtre ce jour-là puisque c'est un lieu patrimonial et c'est un lieu culturel, donc on associe ces deux temps cet après-midi et cette soirée particulière pour proposer une journée culturelle complète au public et aux gens qui aiment bien faire différents lieux pendant les journées du patrimoine. Voilà. Ils pourront poursuivre ensuite avec notre présentation de saison et un petit concert en fin de soirée. Tout est gratuit, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. On a vécu une saison un petit peu éprouvante la saison dernière. C'est vrai que pour un événement de reprise, c'est parfait de rouvrir en grand tout, de pouvoir accueillir le public dans des conditions, certes sanitairement plus contrôlées qu'habituellement, mais au moins de rouvrir au public, de permettre cette rencontre entre le public, les équipes de la saison et les artistes autour de différents temps conviviaux pour mettre le pied à l'étrier, donner envie aux gens de revenir vraiment sur toute cette saison qui va être riche et joyeuse, on l'espère. Par souci de simplicité pour maîtriser toutes les jauges, ces visites sont ouvertes sur réservation. Donc c'est gratuit, hein, mais il faut bien penser à réserver. Donc les réservations peuvent se faire par téléphone auprès de la saison culturelle au 02 43 09 19 89 ou bien par mail à l'adresse culture@paysdecran.fr.
Eu quero te ver bem nos fins de semana, nos dias e noites.
Et notre troisième épisode aujourd'hui consacré au musée Jean Chouan à Saint-Ouen-des-Toits, l'occasion de mieux se rendre compte du quotidien des paysans mayennais à cette époque-là, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et puis de découvrir aussi ce qui s'est passé ici en Mayenne en cette période tumultueuse de la Révolution. Je vous laisse écouter le président, le coprésident du musée Jean Chouan.
Denis Messager, je suis coprésident de l'Association des Amis du musée Jean Chouan à Saint-Ouen-des-Toits. Ce musée Jean Chouan est installé dans la closerie des Poiriers à Saint-Ouen-des-Toits. C'est une ferme, je dirais, comme elle n'en existait des milliers en Mayenne au XVIIIe siècle. C'était un petit bâtiment composé, je dirais, d'une pièce principale, de la chambre pour la coucher et puis d'une étable. À l'époque, c'était ça. Alors, il y a un bâtiment à côté qui est plus récent, qui sert de musée, je dirais, de salle de... un petit peu pour les visiteurs, pour expliquer ce qu'a été un peu cette période un peu mouvementée. En 1793, les Vendéens, qui sont révoltés pour les mêmes causes que les Chouans, mais qui sont beaucoup plus nombreux, traversent la Loire parce qu'ils sont battus à Cholet et viennent se réfugier en Mayenne, où ils sont rejoints par les Chouans. Et la bataille d'Entrammes, je dirais, a lieu donc en 1793 entre les Chouans, les Vendéens et puis les révolutionnaires. Et ce sont, pour une fois, les Vendéens qui ont le dessus, pour une fois, parce que ça va se terminer tragiquement pour eux quelques mois plus tard. Par contre, ça va permettre à la chouannerie de se développer. La chouannerie démarre en Mayenne tout simplement parce que le premier chef en Chouan en Mayenne, ça a été Jean Cotreau, qui était surnommé Jean Chouan comme tous les gens de sa famille. Et avec un surnom aussi, je dirais, médiatique, si vous me permettez l'expression, je dirais, il a été très vite repéré. Et le premier chef, donc, des Chouans entre Laval et Vitré. La terreur en Mayenne, en 1794, c'est pendant presque un an, je dirais, plus de 600 personnes guillotinées en Mayenne. Les gens ont du mal à imaginer un tel chiffre. 600 personnes guillotinées, en représailles, ce sont des dizaines de patriotes dans les communes, c'est-à-dire les maires, les officiers municipaux, les juges de paix, qui sont assassinés par les Chouans en représailles. Jean Chouan, qui est né dans la forêt de Concise et non pas ici parce que son père était sabotier, et ses parents héritent de cette closerie-là vers 1760 parce que c'était la propriété des parents de la mère de Jean Chouan. Donc la famille vient s'installer ici vers 1760 et la famille reste propriétaire de ces bâtiments jusqu'en 1846 à la mort de René, qui est le dernier des frères de Jean Chouan qui est décédé ici.
Pourquoi cette passion pour Jean Chouan, puisque vous avez fait donc plus de 10 ans de recherche pour ce livre et ce musée, vous y êtes impliqué depuis le début?
Pour une raison très, très chauvine, je dirais que je suis né à Saint-Ouen d'une part et d'autre part, j'ai des cousins qui ont vécu dans cette maison, c'est pour moi des souvenirs familiaux. Et puis, tant gamin, je dirais, Jean Chouan, c'était le héros, même si on ne savait pas beaucoup de choses sur son histoire, c'était un petit peu le héros de la commune. Un personnage aussi légendaire qui s'est battu, je dirais, qui a fait de la contrebande, qui est mort dans le bois de Misdon, c'est déjà dans des conditions un peu mystérieuses, sa tombe, personne ne sait où il est, donc pour des enfants, c'est très parlant, quoi.
Por baixo dos medos tem uma criança, eu quero viver.
Eu quero viver, eu quero viver.
Eu quero viver,
eu quero viver.
Eu quero viver bem, Juliana. Só mais um detalhe por cima dos males.
Et nous sommes jeudi, quatrième jour et quatrième épisode de notre série autour des Journées européennes du patrimoine. Les archives départementales de la Mayenne ouvrent elles aussi leurs portes ce week-end. Alors, c'est assez classique, assez traditionnel, mais ce qui change ce week-end, c'est que vous pourrez notamment écouter plus de 1300 nouvelles archives sonores. Alors, elles ne sont pas vraiment nouvelles, mais là, elles viennent d'être numérisées. On trouve des anciennes chansons, du patois mayennais ou même des conversations d'époque. Je vous laisse donc avec les explications de Jérôme Chevreul, qui est responsable des usages numériques des fonds iconographiques et visuels, évidemment, aux archives de la Mayenne.
On a mis en ligne plus de 1300 chants et musiques traditionnelles mayennaises, et donc issus d'un collectage qui a été réalisé en 1980-1982 par l'ethnomusicologue François Redon et son ami Anne Pierrot, en collaboration avec l'association RSCM, Recherche et Sauvegarde des Coutumes Mayennaises. Donc on a 44 bandes audio et qui ont été numérisées à la fin des années 90. Et donc il était temps de séquencer ces bandes et de les indexer grâce au fichier d'inventaire que l'association avait réalisé au début, dans les années 80, pour le diffuser sur notre site internet, pouvoir trouver les titres des musiques, les interprètes, le type de musique, si on veut rechercher une mazurka, une avant-deux, une java, une chanson de conscrit, etc. etc. Donc c'est quasiment 50 heures de musique et chant, accompagné quelquefois de témoignages des interprètes qui ont pu les chanter. Il y avait déjà une attente importante. On a été sollicité déjà il y a quelques années par Mayenne Culture, par d'autres associations. Et aujourd'hui, l'association APOM aussi est avare de ces chants-là, à la fois pour le transmettre aux nouvelles générations. Et puis, ça reste une de nos missions principales aussi aux archives départementales, c'est diffuser aussi les fonds que l'on conserve au plus grand nombre. Il était temps pour nous aussi de le mettre en ligne et de le plus confortablement possible aussi. On est ouvert donc le week-end, les deux après-midi, du samedi et du dimanche, de 13h45 à 18h. Il y a plusieurs aspects. Donc à l'extérieur du bâtiment, il y a une exposition sur les Mayennais à vélo, toute une histoire qu'on expose depuis juin dernier à l'occasion du Tour de France, mais sur un aspect plus populaire, donc au niveau des gens, comment le vélo s'est installé en Mayenne. Il y aura une lecture théâtralisée de Olivier Hédin de la compagnie O, Voyage en Pays Ordinaire, qui est liée donc au confinement et à la Chapelle Auriboul. C'est né d'un blog et c'est devenu une publication et une lecture théâtralisée donc, qu'il a créée à la suite d'une résidence d'artiste aussi en juin aux archives. Et ensuite, donc, à l'intérieur des archives départementales, évidemment des visites du bâtiment, des expositions d'archives inédites. Il y aura aussi la présence du cercle généalogique de la Mayenne pour ceux qui sont intéressés à la généalogie, la présentation d'archives numérisées. On présente évidemment toutes nos missions à l'intérieur du bâtiment. En effet, après, c'est de montrer nos missions, de montrer ce qu'on peut conserver, parce que ça peut vraiment intéresser tout le monde, pas que des généalogistes. Ceux qui s'intéressent au patrimoine local peuvent trouver toutes sortes de choses très intéressantes aux archives.
Petite précision, hein, la pomme, c'est l'association du patrimoine oral mayennais, dont on parlera dans une autre interview un petit peu plus tard. Nous sommes vendredi, c'est donc le dernier épisode de notre série autour des journées du patrimoine. Et pour ce dernier jour, on va prendre de la hauteur, un peu, voire même beaucoup, avec Michael Buton. Il rénove depuis 4 ans un château d'eau à Dent. On y retrouve aujourd'hui un gîte de 14 couchages et une salle de séminaire. Mais pour se retrouver à 35 mètres de hauteur, il a d'abord fallu grimper les 150 marches. Là, on est à l'intérieur de ce château d'eau là, qui a été entièrement rénové en gîte, mais c'est pas du tout l'état dans lequel vous l'avez trouvé il y a 4 ans. Il ressemblait à quoi justement il y a 4 ans ?
Il ressemblait à un véritable pigeonnier. Il y avait à peu près 1000 à 2000 pigeons qui vivaient dans le château d'eau. Alors il a fallu faire un grand nettoyage, il a fallu faire sortir les pigeons d'abord. Il a fallu démolir du béton pour pouvoir ouvrir des fenêtres et pour pouvoir avoir cette vue qu'on a qui est remarquable, qui est reposante. L'idée, ça m'est déjà travaillé avant de trouver le château d'eau, parce que j'en cherchais pas spécialement un, mais j'avais déjà parlé à un ami, si je trouve un château d'eau, je me ferai une garçonnière là-dedans. J'imagine bien faire quelque chose dans un château d'eau, parce que j'ai l'habitude de rénover des maisons, mais je voulais faire quelque chose totalement atypique, juste pour me faire plaisir. Justement, c'est un ami qui me dit, j'ai vu dans le journal qu'il démolissait le château d'eau à côté de chez toi. Je suis rentré, comme la porte était toujours ouverte, alors j'ai mesuré, hop, les dimensions, j'ai dit tiens, une nuit de sommeil, deux nuits de sommeil, et les plans étaient faits. Je savais que c'était la mairesse de Biarnier qui s'occupait du syndicat des eaux. J'ai été lui faire une proposition d'achat, d'abord qu'il l'a surpris, parce que pour elle, il pensait pas du tout vendre le château d'eau, eux, ils pensaient qu'à la démolition, et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors j'ai commencé par faire des structures pour pouvoir monter et démonter, à fur et à mesure que je montais, j'ai démonté des anciens tuyaux qu'il y avait, refaire une structure totale pour monter en haut, voilà, faire des niveaux, pour pouvoir mettre des escaliers. Alors... pour servir pour démonter la cuve, parce que c'était un réservoir à double cuve. Il a fait démonter à peu près 4 mètres de béton sur 20 mètres linéaires pour pouvoir bénéficier justement de la totalité de la vue qu'on a ou de la salle. Et ça, tout ça, ça a pris beaucoup de temps en fait. Je fais plus de 90% tout seul des travaux. Hein, voilà. J'ai des super copains qui m'aident quand il faut monter les matériaux, heureusement. c'est un projet que j'ai totalement à cœur et qui me dégoûte surtout pas. Et je fais tout pour pas que ça me dégoûte, hein, parce que j'y vais quand j'ai envie et voilà, je suis pas tous les jours dessus et je fais d'autres choses aussi à côté, alors je m'arrange, voilà. Tout le monde pense qu'au départ, qu'est-ce qu'on peut faire dans un château d'eau, c'est tout petit, mais réellement, il y a beaucoup de place. C'est trompeur, on est perdu dans les tailles, les proportions, on est totalement perdu. Et quand on est en haut, on voit à peu près 20-30 km très très bien. Et pour se repérer, il faut chercher les clochers, les éoliennes, les autres châteaux d'eau, des antennes. Tout le monde se prend au jeu, en fin de compte, pour se repérer. On voit beaucoup des curiosités qu'on ne voit pas au sol. Que ce soit la nature, avec les animaux, parce qu'on a une vue. On voit les animaux voler souvent, on est au-dessus eux quand ils volent, hein, les oiseaux, tout ça. Les nuits aussi, les éclairages, on sert des éclairages pour voir les autres communes. Il y a même beaucoup de personnes qui ont le vertige, ils disent « Ah non, moi je ne monterai jamais sur le balcon ». Et souvent, ils sont là, ils disent « Faut que je tente, faut que j'y aille ». Et comme ils sont à haut et tout, ils voient que c'est en sécurité, et ça, généralement, ils y vont.
Alors, est-ce que vous aussi, si vous avez le vertige, vous oserez aller sur le balcon du château d'eau dedans ? En tout cas, si vous voulez tester, le château d'eau est ouvert demain et dimanche de 9h à 19h. L'an dernier, les visites ont très bien fonctionné puisqu'ils ont accueilli près d'un millier de visiteurs. We'll be right back.
radio.
C'est tout doux, c'est tout mignon.
Mais pas que.
On part du côté des Jeux Olympiques. Alors non, je sais, les Jeux Olympiques sont terminés depuis un mois, depuis 15 jours même, les Jeux Paralympiques. Mais les sportifs mayennais, eux, en sont revenus, ceux qui ont participé. Ils sont 5 justement à avoir été sélectionnés pour ces Jeux de Tokyo en conditions Covid, on le sait. Et tous ont reçu samedi la médaille du département de la Mayenne, l'occasion d'avoir leur ressenti, de recueillir un peu leurs impressions quelques semaines après cette compétition exceptionnelle. Et aujourd'hui, on va entendre l'athlète lavalloise Sunkamba Silla, remplaçante pour le 4x400 mètres par équipe. Elle n'a pas couru, mais mesure sa chance d'avoir pu vivre l'expérience.
Je m'appelle Sunkamba Silla, je viens d'avoir 23 ans, je suis née à Laval et je fais mes études que je viens de terminer sur Nantes et je m'entraîne au Centre National Nantais. Donc je fais du 400 mètres, 4 fois sélectionnée en équipe de France, plusieurs podiums en championnat de France et voilà, je fais partie du collectif 4x400 mètres. Alors non, je m'entraîne sur Nantes, mais en fait j'ai gardé mon club sur Laval. Et Laval, je fais juste les allers-retours toutes les semaines pour voir la famille, parce que j'aime bien Laval. Là, c'est la ville dans laquelle je suis née, j'y suis attachée, donc voilà. Alors je viens de valider un master en management récemment et là je viens de signer mon CDI il y a 2 semaines. Je suis responsable et je m'occupe de la RSE d'une entreprise de bricolage, tout ce qui est gestion des déchets, etc. Et en parallèle des entraînements, c'était compliqué l'année dernière parce que j'étais en 35 heures à l'école ou 35 heures en entreprise. Là, j'ai eu la chance, grâce aux résultats que j'ai fait l'année dernière, de pouvoir avoir un aménagement, c'est-à-dire je serai moitié au travail et moitié à l'entraînement, ce qui me permettra de plus m'entraîner normalement. Je vous avoue, moi, quand je suis revenue, j'étais un petit peu perdue. En fait, je réalisais pas d'avoir fait les Jeux, d'avoir réussi un de ces gros objectifs que je m'étais fixé pour la fin de ma carrière. Et c'est vrai que après ça, j'avais besoin de partir en vacances, de me ressourcer et de me dire ouais, ok, ça y est, c'est fait. C'était une expérience incroyable. Moi, honnêtement, j'avais pour objectif de participer aux Jeux 2024. Je m'étais dit que les Jeux de Tokyo, ça allait être compliqué, étant donné que j'étais assez jeune, j'ai 22 ans. Et c'est vrai que le fait d'avoir été sélectionnée, c'est quand même une grande étape dans ma carrière sportive. Après, malheureusement, j'ai pas pu courir, mais je me dis que j'ai quand même eu la chance d'y aller, de faire le camp d'entraînement avec les filles, d'être sur le terrain olympique, et que c'est une première étape, j'espère, dans la réussite de mon objectif. C'est frustrant aussi parce que j'étais dans un bon état de forme là-bas. On avait des tests à réaliser avec les autres filles de l'équipe avec qui j'étais. Mais je me dis, mieux vaut y aller et vivre l'expérience à fond, bien que je ne puisse pas courir, plutôt que de ne pas y aller et de ne pas voir ce que c'est les Jeux Olympiques dans un autre pays. Je suis allée au village olympique. Normalement, les remplaçants ne sont pas au village olympique. Là, j'ai eu la chance d'y aller. J'étais vraiment... Je faisais vraiment partie de l'équipe, j'ai vraiment fait les Jeux Olympiques, j'ai juste pas couru. Donc effectivement, c'est, j'espère, un début et que la prochaine étape, ce sera de courir. C'est magnifique, en plus on a l'occasion d'avoir normalement nos proches avec nous et c'est les Jeux à Paris. Donc là, l'objectif est gros et c'est clair qu'on a tous envie d'y aller, quoi. Alors avant Paris 2024, il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, il y a les Jeux de la francophonie. Franchement, on est servi, si toutes les compétitions sont maintenues, il y a de quoi faire, je pense.
Objectif 2024 déjà pour la plus jeune athlète du département, avoir participé aux Jeux de Tokyo. C'était aussi une première pour le marcheur Gabriel Bordier, que vous entendrez demain. Le marcheur de Saint-Berthevin a été sélectionné pour le 20 km. Il est arrivé 24e pour ses premiers Jeux Olympiques, la compétition ultime selon lui.
C'est une grande fierté, c'est un aboutissement en tant que sportif. Les Jeux, c'est la compétition phare en athlétisme. C'est une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans avec le Covid. C'est vraiment un objectif, un but pour tout sportif, quoi. C'est quelque chose auquel je pensais pas forcément en commençant le sport. Et c'est quelque chose auquel j'ai envie de regoûter maintenant, une fois que j'y suis déjà allé. Ouais, j'ai commencé jeune en école d'athlétisme dans mon club de Saint-Berthevin. Et puis maintenant, j'y suis toujours. Et je compte bien y rester encore quelques années. Et je compte même pas en partir. Je me considère pas aujourd'hui comme un professionnel du sport, dans le sens où j'en fais pas mon métier, où je fais pas que ça. Mais j'ai commencé à vraiment rentrer dans le haut niveau senior, du moins en 2017-2018, où j'ai fait ma première médaille internationale en U23. et auquel derrière j'ai participé au championnat du monde universitaire à Taïwan, et puis après en 2018 où vraiment je me suis ancré dans l'équipe de France senior d'athlétisme avec les Europes de Berlin, où là vraiment j'ai commencé à mettre le pied dans quelque chose où je me disais il y a quelque chose à faire et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur les années à venir. Je pensais pas encore aux Jeux Olympiques à ce moment-là, mais je savais qu'il y avait moyen de faire des belles performances. Ça se voit à l'ambiance, enfin, ça se ressent tout de suite, je ne saurais pas dire, il faudrait y aller pour s'en rendre compte, on verra ça à Paris. En tant que sportif, quand on arrive là, on se dit bah, on est là ou derrière, de l'autre côté de la télé, parce que moi les Jeux Olympiques avant j'ai regardé à la télé, donc c'est pas pareil, c'est dans ça qu'on se rend compte d'où on est. Compliqué, bah, on regarde même le premier de la course à un temps inférieur à mon record, donc ça montre un petit peu les conditions, la dureté qu'il y avait sur cette course, je faisais plus de 30 degrés, très humide, climat tropical au Japon. Un petit peu d'insouciance sur le début de la course qui a fait que je suis peut-être parti un peu trop vite et je l'ai payé sur la fin, donc j'ai peut-être perdu des places à cause de ça. Après, j'ai pris le risque d'aller chercher quelque chose de plus beau que ce à quoi je pouvais prétendre. Je ne le regarde pas forcément aujourd'hui, même si je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire mieux. J'ai pas 24 places à gagner, mais beaucoup de places à gagner pendant 3 ans. Il va y avoir des objectifs intermédiaires dès l'année prochaine avec les championnats du monde, les championnats d'Europe, où il va falloir grappiller des places progressivement, essayer de s'imposer dans le peloton mondial, essayer de descendre ma performance sur 20 km, et puis progressivement arriver au meilleur niveau possible en 2024. La plupart du temps, je suis la semaine à Angers pour travailler, puis je reviens le week-end pour m'entraîner dans mon club, et puis avec mon entraîneur Gérard Lelièvre sur les halages de Changé ou sur Coupeau à Saint-Berthevin. Le samedi matin ou le dimanche matin, il y a beaucoup de monde, toujours de la bonne humeur et de la sympathie, ouais. Si les gens veulent me suivre, ce sera avec plaisir. Après, je ne prendrai pas le temps de m'arrêter et discuter avec tout le monde, non.
Et pour lui parler pendant l'entraînement, mieux vaut tenir le rythme, hein, puisque le marcheur avance en moyenne à 15 km/h. Les Jeux étaient aussi paralympiques à Tokyo. Et demain, on donne la parole à Vladimir Vinchon, qualifié en paradressage. When you drive me crazy, see all the colors you say. I don't see anything. 15 jours après la fin des Jeux Paralympiques, on s'intéresse aux sportifs qui y ont participé, évidemment aux sportifs de la Mayenne. Et aujourd'hui, Vladimir Vinchon, le cavalier, a été sélectionné en paradressage à Tokyo. C'était sa deuxième Paralympiade, après celle de Londres en 2012, mais la première en revanche pour son cheval, Fidertans for Rosie, que je n'écorche pas son nom, qui a permis du coup à son autre cheval qui l'accompagne depuis bien longtemps, Tarantino Fleury, de se reposer.
Ça s'est passé comme je le souhaitais, puisque mon jeune cheval a été vraiment présent et performant au moment où en tout cas on l'a présenté. Donc c'est plutôt très encourageant puisque c'est vraiment une étape vers Paris. C'était alors sa première Olympiade, sa première très grosse échéance, puisque le cheval c'est vraiment voilà, le premier très gros concours qu'il fait. Donc on est super, super fiers du cheval et vraiment avec les encouragements du jury, on va dire. On a vraiment tout ce qu'il faut pour aller chercher des médailles à Paris, moi en tout cas une, voire des médailles à Paris. L'objectif est rempli. Cette place de 9e, c'est on prend simplement les 8 premiers pour aller à ce qu'on appelle la freestyle. On est 9e, bien voilà. Le cheval était vraiment très contracté lors de la première épreuve, ce qui ne lui permet pas de s'exprimer en tout cas dans ses allures comme il sait le faire. Ensuite, nous avons été sélectionnés par la Fédération Française d'Équitation pour défendre l'équipe de France. Et là, le cheval a vraiment explosé ses scores, donc il a su répondre présent et il a confirmé que voilà, il avait bien sa place ici. Les Jeux de Tokyo 2021, ça a été un peuple japonais extraordinaire, d'une gentillesse. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ces Jeux, au-delà des performances sportives, hein, j'entends bien, mais le peuple japonais est un peuple exceptionnel. On a un cheval qui est vraiment, vraiment très bon. Maintenant, pour pouvoir, je dirais, être serein sur une saison, avoir un deuxième cheval, qui est le niveau de Fidertans for Rosie, pour pouvoir, je dirais, avoir ces 3 ans de montée en compétence, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des chevaux, il faut qu'on arrive vraiment avec 2 chevaux. Autrement, c'est très compliqué, tant pour moi que pour le cheval, puisque bon, voilà, deux chevaux de ce même niveau nous permettent de laisser un se reposer ou en tout cas se relâcher à un moment donné où il en a besoin. Et sortir sur le circuit valide, ça nous permet également de nous hisser vers le haut, donc de progresser. Vous voyez, par exemple, là, on rentre de Tokyo, au mois d'octobre, fin octobre, je me dirige vers le circuit valide avec Feeder Towns for Rosie. Peut-être pour aller rechercher un titre de champion de France ou pas. Et puis, 15 jours après, je repars sur le circuit handisport. Les Jeux paralympiques prennent toute la place. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'on a quand même 54 médailles cette année. On a fait une motion extraordinaire. On est fiers d'avoir représenté la France, d'avoir représenté la Mayenne. Et aujourd'hui, quand on revient et qu'on est accueilli dans l'hôtel du département par notre président, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté, même si on n'est pas médaillé, on a défendu nos chances. Maintenant, pour ma part, j'étais aussi en préparation pour Paris, même si je n'y allais pas pour me promener, loin de là. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour aller vers Paris.
Et comme d'autres athlètes, l'objectif, c'est bien les JO de Paris 2024 avec deux chevaux pour Vladimir Vinchon. Demain, vous entendrez la judokate Vanessa Mbala de Château-Gontier qui a concouru à ces Jeux sous les couleurs du Cameroun. On va reprendre un rythme un petit peu plus soutenu puisqu'on part avec les sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques et dont fait partie Vanessa Mbala, licenciée au club de judo de Château-Gontier. Elle a pourtant été sélectionnée sous les couleurs du Cameroun pour participer aux JO de Tokyo dans la catégorie plus de 78 kilos. Mais la compétition, vous allez l'entendre, n'a pas été une partie de plaisir pour la judokate.
Ces jeux étaient vraiment compliqués pour moi parce que au départ, je devais aller avec mon entraîneur au Vic Chenet. Et quelques semaines avant mon départ, on me fait savoir que j'irais toute seule. Du coup, psychologiquement, ça m'a impacté beaucoup. Il n'y a pas eu de raison donnée puisqu'au départ, on a fourni tous les documents que mon pays a demandé, le comité olympique. On a fourni tous les documents. Du jour au lendemain, on nous envoie un message pour nous dire que voilà, Rogic ne sera pas là. Psychologiquement, j'étais pas bien parce que j'étais en train de voir toute ma carrière tomber à l'eau, quoi. Et j'ai pas écouté mon corps parce que voilà, j'avais plus envie de m'entraîner. Et je pense que j'aurais dû écouter mon corps. Deux jours après, je me fais une fracture de la main du quatrième métacarpe. Tant bien que mal, j'ai continué à m'entraîner parce que je pouvais pas admettre que je me blesse à quelques semaines des Jeux. Après 5 ans de préparation, de dur labeur, il y a eu des sacrifices. Je ne pouvais pas me voir déclarer forfait comme ça. Du coup, voilà, j'ai continué à m'entraîner malgré la fracture. Le jour J, je suis monté sur le tapis avec voilà, toute une main bandée. J'étais, je peux dire, à 80% de ma forme, quoi. C'était vraiment compliqué, mais je n'ai rien lâché. C'est aussi ça, le sportif. Il y aura des périodes, il y a toujours les périodes comme ça où voilà, il y a une blessure qui surgit. Il faut faire avec. Moi, je ne me voyais pas déclarer forfait. Quand je voyais les 5 années qui sont passées, les sacrifices que j'ai faits, bon, je me suis dit, allez, on va mourir avec les armes à la main. On monte. Ça peut passer comme ça ne peut pas passer, mais on n'abandonne pas. C'est ça qui a été ma devise. Et voilà, je n'ai pas abandonné. Mais néanmoins, je n'ai pas aussi été ridicule sur le tapis. Donc, si je ne l'aurais pas dit, personne n'aurait su que j'avais une fracture sur la main. Voilà, je suis fier de moi parce que malgré tout, j'ai réussi à sortir de là la tête haute. Même si je suis rentré sans médaille, mais au moins je suis fier de moi parce que voilà, j'ai réussi à terminer ce que j'ai commencé. Les premières semaines ont été un peu dures parce que j'avais l'habitude de m'entraîner 2 fois, 3 fois par jour. Et là, passer de 2 à 3 fois par jour à 1 fois, c'est un peu dur parce que ça me manque. Ça me manque, mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin que mon corps se repose et soigner les bobos. Psychologiquement, c'est pas facile. Heureusement, j'ai ma famille qui est là, qui me soutient. Ils m'encouragent tous les jours pour que je puisse pas entrer dans la dépression, si je peux le dire, mais vraiment, psychologiquement, c'est dur. Quand on dit on va arrêter sa carrière, il faut vraiment du monde autour de soi pour vous encourager parce que c'est pas évident de laisser tomber tout ça. Bah oui, j'entraîne toujours les tout petits, les 4-5 ans, sur Château-Gontier aussi, donc sur Bonchamp et sur Cossé aussi. Donc voilà mon passe-temps et ma reconversion déjà. Donc je me concentre à ça pour l'instant et je suis ravie de partager mon expérience avec les tout-petits. Bah oui, ils sont impressionnés, tous veulent voir les médailles à chaque fois. Est-ce que tu peux ramener tes... Ils appellent les médailles les cordes. Est-ce que tu peux ramener tes cordes? Oh oui, je vais ramener mes cordes, mais si vous êtes gentils, je ramène les cordes. Bah voilà. Du coup, j'essaie de faire un petit chantage. S'ils veulent garder la voix et la médaille, ils doivent écouter les consignes. Et du coup, ça marche.
Entraîneur pour les plus jeunes, peut-être une piste aussi pour François Pervis. Le cycliste sur piste a conclu sa carrière internationale à Tokyo, justement, il y a quelques semaines. Il va d'ailleurs nous en parler demain. I don't remember the day. A pair of glasses, okay. Pleasure stayed away. Le peuple ne changera jamais. Poursuit et on termine d'ailleurs puisqu'on est vendredi, cinquième et dernier épisode de notre feuilleton avec les sportifs mayennais qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Lui avait déjà une médaille de bronze obtenue justement aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Il revient de Tokyo avec une deuxième médaille de bronze des Jeux Paralympiques cette fois-ci. François Pervis conclut d'une belle manière donc sa carrière sportive. Après ce dernier défi mené avec le coureur malvoyant Raphaël Beaugilet, encore une autre expérience réussie pour ce cycliste sur piste.
Les Jeux Paralympiques, ça a une saveur très particulière, surtout pour moi, puisque j'ai pas de problème physique comme les athlètes paralympiques. Donc j'étais guide. Donc là, bon bah j'ai découvert un univers. Ça reste quand même un univers de sport professionnel. C'était très valorisant pour moi humainement. Et donc, c'était vraiment une très belle aventure parce que j'étais, on va dire, vraiment concentré pendant 20 ans sur mon objectif en tant que valide, sur mes championnats du monde, sur mes Jeux olympiques. Et là, pour cette dernière année, les Jeux paralympiques, j'ai découvert un autre univers, en quelque sorte. J'ai vu des personnes qui étaient mutilées, qui avaient... j'ai vu des gens foudroyés, qui ont perdu des membres. Et ils faisaient comme du vélo. Il y a un coureur, il avait deux bras et deux jambes en moins, il faisait comme du vélo. C'était incroyable. Et donc, beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que c'est des gens qui, malgré ce qui leur est arrivé, ils mordaient la vie à pleines dents. J'ai pris une claque, c'était vraiment beau à voir. Rien que pour ça, voilà, c'est beaucoup d'humilité. Ouais, j'ai pris une leçon de la vie, là, franchement. Et donc, oui, c'était des jeux très spéciaux. Finir ma carrière sur une médaille paralympique, c'est riche en émotions, beaucoup de valeur derrière tout ça. Et puis c'était vraiment une aventure humaine extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Ça, elle était unique, cette chance. J'ai cette chance de l'avoir vécue. Et en plus de ça, avoir réussi à gagner avec mon collègue une médaille de bronze. Donc c'est pas rien. Et en plus de ça, cette médaille de bronze fait que je fais partie seulement des 3 athlètes, toutes générations confondues, de tous les sports que comportent les Jeux, à avoir gagné à la fois une médaille aux Jeux Olympiques et une médaille aux Jeux Paralympiques. On n'est que 3 dans toute l'histoire du sport, donc c'est historique. Et donc cette médaille de bronze, elle a bien plus qu'une valeur de bronze. Les missions qui m'ont été données par la Fédération française du handisport, c'était d'une d'accompagner Raphaël, mon binôme, à le professionnaliser, à lui apporter de la rigueur parce que il s'entraînait que quelques fois par semaine, deux ou trois fois par semaine. Là, c'était deux fois par jour. Il a fallu qu'il s'entraîne deux fois par jour, qu'il commence à faire de la musculation. Avant, c'était un coureur endurant et il a fallu le transformer en un sprinter. Donc, c'est comme si vous demandiez à un coureur de marathon de faire ce que fait Usain Bolt et de gagner un 100 mètres en athlétisme. Un gros défi là, et donc aussi l'une de mes missions c'était ça, et puis l'autre mission aussi c'était d'apporter par ma notoriété de sportif valide la lumière sur le paralympique et sur le handisport en général. Et donc j'ai vraiment pris ça à cœur parce que quand j'ai découvert ce monde de handisport, je me suis dit mais il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses à faire, et il mérite bien plus de médiatisation aussi, parce que c'est important la médiatisation, pour la reconnaissance, il mérite d'être connu. Et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'était pas forcément. Mais vraiment, est-ce qu'on a vu cette année, avec tous les efforts qui ont été faits, c'est en bonne voie.
Désormais, François Pervis se consacre à la culture du bambou sur ses terres familiales de Villiers-Charlemagne, ses conférences en entreprise et ses baptêmes de cyclisme sur piste pour du team building. Donc là aussi, vous l'avez compris, entre collaborateurs d'une entreprise.
Fini pour aujourd'hui, rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux agités du mois.